Un tel corps est aujourd'hui nommé trou noir supermassif. Mais les astronomes soupçonnent l'existence de trous noirs supermassifs au centre de pratiquement toutes les galaxies. Évidemment, il est hors de question de considérer que ces trous noirs supermassifs au centre des galaxies soient constitués d'eau. Alors, plus commun encore seraient les trous noirs dits stellaires, dont la masse serait de l'ordre de quelques fois la masse du Soleil, et le rayon critique du trou noir, que l'on appelle le rayon de Schwarzschild, d'une dizaine de kilomètres seulement. Pour bien se rendre compte de l'état de concentration de matière extrême qui règne dans un trou noir, on peut indiquer que pour transformer artificiellement, bien sûr, le Soleil en trou noir, car comme nous le verrons, le Soleil ne pourra jamais devenir naturellement un trou noir, eh bien il faudrait le réduire à une simple boule de 3 km de rayon. Et quant à la Terre, il faudrait carrément l'écraser en une bille de 1 cm. Alors malgré cette première description des trous noirs dans le cadre d'une théorie newtonienne de la gravitation, il s'est avéré qu'en fait les trous noirs étaient des objets purement relativistes. C'est-à-dire qu'une théorie cohérente des trous noirs n'a pu se développer véritablement qu'au XXe siècle, dans le cadre d'une autre théorie de la gravitation, plus sophistiquée, plus performante que la théorie de Newton, et qui est la théorie de la relativité générale, élaborée par Albert Einstein en 1915. Selon la conception d'Einstein, bien l'espace, le temps et la matière sont couplés en une structure géométrique que l'on dit non euclidienne et qui est très compliquée. Alors pour simplifier, on peut dire que la matière-énergie confère une sorte de forme à l'espace-temps. L'espace-temps peut donc être vu comme une nouvelle entité qui est à la fois élastique, en ce sens que les corps massifs engendre de la courbure, mais aussi une entité qui est dynamique, en ce sens que cette structure évolue au cours du temps. Elle change au cours du temps au gré des mouvements des corps massifs. Par exemple, n'importe quel corps massif, selon cette théorie, engendre autour de lui, c'est-à-dire dans le tissu élastique de l'espace-temps, une courbure. Si le corps se déplace, la courbure se déplace avec lui, mais elle fait aussi vibrer l'espace-temps sous forme d'ondulations, de très faibles ondulations de courbure, que l'on appelle des ondes gravitationnelles. La courbure de l'espace-temps peut se visualiser par les trajectoires des rayons lumineux et des particules dites libres, c'est-à-dire des particules soumises à aucune force particulière, aucune force électrique par exemple, ou magnétique, mais des particules qui se déplacent librement, dans un champ de gravité. Donc ces trajectoires et des rayons lumineux et des particules libres épousent naturellement la forme incurvée de l'espace. Par exemple, dans cette nouvelle vision de l'espace-temps courbe, eh bien, si les planètes tournent autour du Soleil selon des ellipses, eh bien, ce n'est pas parce qu'elles sont soumises à une force d'attraction universelle émise par le Soleil, comme le voulait précédemment la physique newtonienne, mais parce qu'elles suivent en quelque sorte la pente naturelle de l'espace-temps qui est courbée au voisinage du Soleil. D'ailleurs, ce phénomène a été vérifié dès 1919 à l'occasion d'une éclipse totale de Soleil, puisque Einstein avait prédit que les étoiles situées à l'arrière-plan du Soleil, visibles seulement au moment d'une éclipse totale de Soleil, auraient une position apparente légèrement décalée par rapport à leur position habituelle en raison de la déviation de leur trajectoire au passage du Soleil. Donc en relativité, finalement, la gravitation, ce n'est pas une force, c'est une simple manifestation de la courbure de l'espace-temps, une manifestation purement géométrique. Et c'est la gravité qui sculpte en quelque sorte la forme locale de l'espace et du temps. Alors les équations